hélicoptères au-dessus des sites olympiques. Il y en aura une quinzaine à sécuriser.
Baptiste Coulon, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, décryptage présenté ce soir par Marion Cazanov.
Radio G. 101.5 FM.
Bonjour, je suis Mélanie Alétru, directrice du Chabada, la salle des musiques actuelles d'Angers. Le Chabada, en 2024, fête ses 30 ans. 30 ans d'histoire, de musique et des milliers de groupes programmés. Nous vous proposons de découvrir l'histoire de cette salle au travers d'une mini-série de 3 podcasts, Petite Histoire et Grande Histoire du Chabada. Écoutez-nous à partir du mois de mars sur les plateformes de podcast, dans les programmes de Radio G et de Radio Campus Angers. Vous trouvez toutes les informations sur notre site internet. Ce programme est soutenu par le PNV, Programme d'État. Bonne écoute à vous et à bientôt au Chabada.
Une sale affaire, le premier épisode de cette série de podcasts dédiée aux 30 ans du Chabada, le vendredi 29 mars à 17h sur Radio G 101.5 FM ou radio-g.fr.
Les 22, 23 et 24 mars à Angers, venez participer au festival Chant contre Chant. Au programme, compétition et diffusion de courts-métrages et vidéoclips avec musique originale. Une soirée concert électro, une séance de dédicaces ainsi qu'une table ronde autour de la musique de film. Les 22, 23 et 24 mars, venez participer au festival Chant contre Chant. Tout est à l'espace culturel le 4. Allez, François Mitterrand, à Angers.
Est-ce que je peux rajouter que je serai la présidente du jury pour les courts-métrages?
Mais bien sûr, Bibiche. Alors venez nombreux, c'est du cinoche, c'est mieux que la pub. Pinaise, à bientôt.
Informations et billetterie sur le site chantcontrechant.com.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Allez, c'est promis ce soir, pas d'intelligence artificielle, voire même peut-être pas d'intelligence du tout. Bonsoir Solène. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est vrai que dit comme ça, ça n'a rien à voir. Alors tu remplaces au pied levé Mathéo ce soir qui n'est pas là, il est absent. Pour le flash info, mais aussi avec un petit reportage, où vas-tu nous emmener tout à l'heure autour de 18h30?
Eh bien, je vais vous emmener dans un petit restaurant assez atypique qui s'appelle Mémé dans les orties.
Voilà, avec Olivier qui était venu et qui viendra très prochainement aussi dans cette émission, puisqu'il va prochainement sortir. Ah, je sais pas si j'ai le droit de le dire, donc je vais le garder au chaud, cette information. La semaine prochaine, on n'est pas là, donc pas de programme puisque c'est vacances pour Topette. Vous aurez la programmation musicale concoctée par Julien, le programmateur de la radio. Mais ce soir, on a bien des invités, on a même 2 sujets. Alors on va rester un petit peu autour du sport. En fin d'émission, on sera avec Terre des Sports, 2e édition. Ça se passe les 3 et 4 avril. Le festival qui met à l'honneur le sport et les sportives. Sportifs en juin, en juin et même d'ailleurs. Partenariat entre l'ADAL Angevine et la L3 Communication Marketing du Sport. Thème de l'année oblige avec les JO et les Paralympiques. Théo sera avec nous. Théo Barry-Crine, coordinateur pour l'ADAL Angevine. Et du coup, Jeanne Moreau, étudiante en L3 Communication Marketing du Sport. Ça, ce sera tout à l'heure. Avant tout ça, on aura Chantal Dillet, médiatrice culturelle des musées d'Angers, accompagnée de Lali Dupont, qui est en stage avec elle actuellement. Elle est en M2 médiation culturelle à l'Estua. Et on va parler ensemble de la nuit étudiante le 11 avril au musée des Beaux-Arts. Et on aura aussi dans mon grenier, on va faire un petit tour dans mon grenier avec toi. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Pierre-Benoît.
Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir ce soir dans Topette et dans mon grenier?
Un objet bien particulier et surtout qui va parler à beaucoup d'Angevins, d'Angevines et habitants de l'Anjou.
Le pâté aux prunes.
Presque.
Presque, tout à l'heure, autour de... Non, c'est toi qui as 18h30 d'ailleurs. Topette, c'est parti pour la dernière de la semaine.
Topette, sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Et donc avant tout ça, un point sur l'actu avec toi, Solène, ce soir. Solène, des nouvelles de l'immeuble Arborescence.
En effet, on connaît enfin la date de l'inauguration de l'immeuble du boulevard Hérault. Après un retard à cause d'intempéries cet hiver, la livraison est finalement prévue fin mai. Il reste cependant 3 logements à vendre dans cet immeuble intergénérationnel. Au total, 29 logements, 94 logements seniors, une crèche, un gîte et un bar constituent le lieu. L'inauguration devra avoir lieu le lundi 25 juin, soit 2 ans et 7 mois après la première pierre.
On reparle de l'usine ThyssenKrupp à Saint-Barthélemy d'Anjou.
Un peu dur en prononciation. d'appellation, mais oui, en effet, c'est le West France qui nous l'apprend. Dans la nuit du 18 au 19 mars, des malfaiteurs en ont profité pour commettre un vol. Environ 7 tonnes de cuivre ont été dérobées sur le chantier en démolition. La facture s'élève à environ 78 000 euros de matériaux volés. Pour l'heure, une enquête de police a été ouverte.
Le quai Monge, au cœur d'un projet structurant pour la ville d'Angers.
Et oui, redynamiser le bas du centre-ville, c'est ce que prévoit le projet Angers Cœur de Maine. Selon le maire Jean-Marc Verchère, le quai Monge est sous-fréquenté par les Angevins. Animer le lieu, c'est donc la mission principale. Et si vous êtes un acteur associatif, vous pouvez déposer votre candidature jusqu'au 29 mars pour faire votre proposition.
Pour tout dire, je ne sais même pas où est le quai Monge précisément. Un joli succès maintenant pour le printemps du tourisme.
En effet, ce mardi 19 mars se tenait au centre d'affaires de Terra Botanica la troisième édition du printemps du tourisme, organisée par l'ESTUA, faculté de tourisme. C'est environ 320 professionnels qui ont fait le déplacement pour parler ambition du territoire et enjeux du tourisme de demain. Cette journée a aussi permis pour la première fois de faire un job dating des métiers du journalisme du tourisme en Anjou.
Et on finit tout ça avec un point Mathéo. Est-ce qu'on va rester sur cette douceur angevine pour demain, Solène?
Alors oui, on devrait rester sur des douceurs assez printanières. La température minimale sera de 7 degrés, une maximale attendue quant à elle à 19. On attend demain un temps plutôt éclairci, surtout en début d'après-midi.
Merci beaucoup Solène. Solène, on te retrouve tout à l'heure pour nous emmener faire un petit tour chez Olivier et chez Mémé dans les orties. Mais avant tout ça, on reçoit nos premiers invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Chantal. Ah, pardon, on t'entend pas. Chantal, bonsoir.
Bonsoir.
Chantal Dillet, toi, tu es donc médiatrice culturelle au musée d'Angers. Alors, tous les musées d'Angers, il y en a combien d'ailleurs en tout ?
Il y en a 6.
6. Et toi, tu préfères lequel ?
Pas de préférence. La diversité fait toute la richesse.
Voilà, on commence avec une question piège, mais on va pas parler que de ça. Bonsoir Lali.
Bonsoir.
Lali Dupont, toi, tu es en stage avec Chantal actuellement. Depuis combien de temps ?
Depuis fin janvier.
Fin janvier. Ah oui, ça, c'est un long stage du coup.
C'est ça, 6 mois.
Était en M2 à l'ESTUA, en master, du coup, médiation culturelle et communication même culturelle. Donc, c'est totalement à propos. Et ensemble, on va parler du 11 avril, précisément à partir de 20h au Musée des Beaux-Arts. C'est place Saint-Éloi. Chantal, tu me reprends.
C'est ça.
C'est la bonne adresse. L'année étudiante, un programme pour les étudiants au cœur du musée. Alors, c'est pas une simple visite, c'est plein d'animations. Et justement, c'est l'occasion d'en parler. Chantal, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte, s'il te plaît? C'est une initiative des musées d'Angers.
Oui, en fait, ça sera même notre 19e édition cette année, cette nuit étudiante. L'idée, c'est vraiment d'organiser une soirée festive à destination du public étudiant et qu'on organise avec des étudiants. Donc, les étudiants sont invités à proposer des projets. Par exemple, on a fait un concours d'affiches, même pour la communication. Ils peuvent proposer des projets de danse, de musique, de performance. Des projets plastiques, tout est permis. Il y a un thème qui est donné pour chaque édition, pour donner un peu le ton de la soirée. Et donc là, on est dans la mise en place de cette nouvelle édition.
L'Olympe se bouge, c'est ça le thème?
Oui, c'est
de
le
la
thème.
19e édition. Peut-être l'affiche, je l'ai juste à côté de moi en studio. Lali, tu peux peut-être la décrire. Je ne sais pas si tu as participé dans le cadre de ton stage ou à la diffuser ou alors à la produire. Est-ce que tu peux nous donner à voir, s'il te plaît, à quoi elle ressemble? Tu veux que je te l'attende peut-être?
Oui, je veux bien. C'est une affiche qui est très haute en couleurs et qui fait bien allusion au sport. En fait, on a une statue qui est détournée, qui porte un maillot de basket. Et qui lance un ballon de basket en fait, qui prend le haut du titre, du thème l'Olympe se bouge. Et cette statue d'ailleurs, elle s'appelle la jeunesse, donc c'était un beau clin d'œil à la nuit étudiante du coup.
Alors oui, vas-y Chantal, oui, tu voulais rajouter des choses.
Je voulais juste ajouter que cette affiche, elle a été imaginée par une étudiante d'une école qui s'appelle Studio M. Elle s'appelle Ninon Laurie, celle qui a remporté ce concours d'affiches.
Voilà, donc on lui fait un petit clin d'œil. Oui. Très très belle affiche, très colorée effectivement. On voit bien le contraste entre sport et art, puisque là clairement avec la sculpture on est sur l'art très traditionnel on va dire. Justement, est-ce que l'idée c'est de trancher pour attirer, séduire un public qui est peut-être parfois trop éloigné? Les jeunes, on sait que s'ils sont pas dans une filière artistique ou culturelle, ils ont parfois tendance à laisser de côté, à bouder un peu les musées, Chantal.
Alors, Boudet, je ne sais pas. En tout cas, on les encourage à venir. Ils ont la gratuité jusqu'à 26 ans, déjà, dans l'ensemble des musées. Mais ce qu'on veut vraiment avec cette soirée, c'est donner un côté très décalé et très festif. Donc, c'est vrai que, comme tu le soulignes, on a joué sur le contraste aussi sur l'affiche, puisque la sculpture, elle est du 19e, ultra classique. Et ici, elle est bien transformée. Et puis, l'actualité... Les Jeux Olympiques nous a amené aussi à imaginer ce que ça pouvait donner dans nos murs, en fait, et d'où le thème de l'Olympe se bouge. On a beaucoup d'œuvres qui parlent de la mythologie et donc ils vont pouvoir détourner toutes nos œuvres.
Peut-être un mot sur les éditions précédentes, comment elles se sont déroulées, comment vous avez pu construire, apprendre aussi des différentes propositions, de comment encadrer cet événement.
Alors c'est un événement pour lequel on est en partenariat avec le Crous Nantes-Pays de la Loire et puis l'Université d'Angers dans le cadre du festival Spectacurieux. On est sur la même temporalité et chacun de ses partenaires va aussi nourrir cette soirée en plus des projets étudiants qui sont proposés. Donc ça en fait aussi toute la richesse. On a généralement une belle fréquentation, on est autour de 1500 étudiants sur cette soirée.
Donc, de 20h à minuit, 1500 étudiants?
Ouais, à peu près.
C'est grand, hein, le musée des Beaux-Arts,
oui,
en fait.
Oui, c'est grand. Il y a de la place pour accueillir, ça circule un peu. Mais les étudiants restent quand même assez longtemps. Il y a une offre qui est assez variée. On peut assister à un concert au milieu de peinture 18e, par exemple. On peut aussi danser, on peut écouter de la musique. Il y a des espaces qui sont plus calmes, on peut faire des activités. Donc normalement, tout le monde peut y trouver son compte. Et pour certains, c'est vrai que c'est la première fois qu'ils mettront les pieds au musée.
Ah, c'est triste, mais il est jamais trop tard pour mettre les pieds une première fois dans un musée. Lali, est-ce que tu connaissais, toi, la nuit étudiante en tant qu'étudiante, justement, avant d'être en stage?
Eh bien, je connaissais, mais je n'ai encore jamais fait de nuit étudiante, donc c'est une première pour moi cette année, donc c'est une vraie chance de pouvoir travailler dessus sans connaître, en fait.
Et quel regard tu portes sur cette configuration, justement, aller proposer des événements, des animations, une soirée, hein, clairement, 20h minuit, c'est une soirée étudiante en plein cœur d'un musée. Ça te paraît être une bonne idée, justement, une bonne configuration pour allier les deux?
Je trouve que c'est une super idée, surtout que c'est une soirée pour les étudiants, mais aussi par les étudiants. Le fait que les étudiants soient acteurs de cette soirée, ça fait vraiment des soirées uniques à chaque édition. Et non, c'est une super idée. Je suis très pressée de voir à quoi ça va ressembler.
Solène, même question. Cette configuration de proposer des parties comme ça au cœur des musées.
Oui, non, ça donne vraiment envie, puis de découvrir un peu plus amplement l'art et revenir peut-être une prochaine fois voir le musée, mais en pleine journée.
Bah oui, ça c'est. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une hausse d'abonnement au musée ou
de
fréquentation?
Ils n'ont pas besoin d'abonnement, en fait. Comme ils ont la gratuité, c'est difficile pour nous après de mesurer la fréquentation des étudiants, mais ils viennent quand même. Ils viennent, on les voit le week-end, on les voit.
Mais on voit les têtes jeunes passer, peut-être qu'on reconnaît des visages sur les 1500 qui viennent. En tout cas, on va redonner les infos pratiques. On va aussi parler des autres musées au-delà de la nuit étudiante, puisqu'ils sont ouverts, ils sont gratuits aussi quand on a moins de 26 ans. Lali, on va pouvoir parler de ta filière, de tes projets également. Mais tout ça, c'est après une pause musicale. C'est Bouquet de roses de Théophile sur le 101.5 FM. Et on revient tous ensemble.
Je comprends tellement la rage et ces problèmes chronophages. Les autres sont indécents, on a deux pas en testant. Je monte au dernier étage pour leur montrer mon visage. La haine grandit avec l'âge, mais j'ai de l'amour dedans. Je comprends tellement l'amour, je suis heureux tous les jours. Les autres sont étrangers, n'aiment pas la vérité. Je monte au dernier étage pour leur montrer nos visages. L'amour grandit avec l'âge, mais j'ai de la haine dedans. Bouquet de roses, bouquet de rêves. Et ta descente, on n'en veut pas. Bouquet de reste, bouquet de glaive. Notre montée, on l'aura pas. Je n'ai plus que choisir les deux et les nuances qui vont autour. Je suis toujours cassé en deux entre hirondelles et vautours. J'ai l'amour, j'aime la haine, j'ai l'amour. J'ai l'amour, j'aime la haine, j'ai l'amour. Bouquet de roses, bouquet de rêves. Et ta descente, on n'en veut pas. Bouquet de reste, bouquet de clèves. Notre montée, on l'aura pas. Je comprends tellement la rage, je comprends tellement l'amour. Enfermé dans une cage, bien sûr que je ne suis pas sourd. Au milieu, j'ai mon visage, à qui je suis
fera des tours. Si je m'enferme dans une case, que je dis que je suis pour. Je fais le choix devant vous, d'aimer la haine et l'amour. D'ailleurs l'amour et la haine, de ne jamais rien choisir. Je me raisonne et je rappelle que je suis qu'un homme. Que je haïs, que je t'aime, que je frissonne. Je me raisonne et je rappelle que je suis qu'un homme. Que je haïs, que je t'aime, que je frissonne. Bouquet de roses, bouquet de rêves. Et ta descente, on n'en veut pas. Bouquet de restes, bouquet de glaives. Notre montée, on l'aura pas. 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 On l'aura pas.
Bouquet de roses de Théophile sur le 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
Et ce soir, on parle d'abord de la nuit étudiante. Tout à l'heure, on va parler du festival Terre des Sports, deuxième édition du côté de Luco avec la dalle angevine. Théo et Jeanne se préparent, ils sont dans les starting blocks et c'est à propos d'ailleurs. Mais en attendant, la nuit étudiante dont on parle avec toi Chantal et toi Lali. Chantal, je rappelle, Chantal Dillet, médiatrice culturelle au musée d'Angers. Tous les musées, les 6 ou 7, 6 6, il y en a 6. Et Lali Dupont, toi t'es en M2 à l'histoire, médiation et communication culturelle. T'es en stage donc avec avec Chantal depuis le mois de janvier, ça dure 6 mois.
C'est ça.
Voilà, ben, merci d'être venu ce soir dans Topette. Non, bien évidemment, on parle de la nuit étudiante. Donc le 11 avril, c'est à partir de 20h, plein d'animations, des projets qui ont été construits avec les étudiants. Du coup, c'est le principe. Vous avez le programme, je crois qu'il commence à être bien précisé. Et maintenant, on sait, on est à peu près fixé, Chantal, Lali.
Oui, le programme est prêt. On va très bientôt le diffuser sur nos réseaux sociaux. Et puis, on communiquera aussi sur toute la soirée, sur tout ce qu'on peut y trouver.
Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des petits éléments ou pas? Parce que j'ai entendu parler d'une Olympiade artistique avec un tremplin DJing, Lali.
C'est ça. En fait, tout au long de la soirée, il y aura des épreuves artistiques, donc de sculpture, peinture, dessin, musique et d'architecture. Et toutes ces épreuves, les étudiants pourront venir y participer durant la soirée. Mais pour l'épreuve de musique, on organise un tremplin. Donc on invite nos amis DJ à nous envoyer une candidature avec un set de 15 minutes pour qu'ils puissent venir le jouer en direct sur les musées d'Angers. Et à la fin, il y aura un vote et un gagnant de cette épreuve.
Vote du public, des personnes qui seront là, ou il y aura un jury spécial composé pour déterminer qui sera l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante?
On y réfléchit encore un peu. Mais il y aura un podium pour une vraie remise de médaille.
Voilà. On repartira bien évidemment pas avec des œuvres du musée, rassurez-nous. Non, vous restez en place. Justement, les musées, parlons-en peut-être, Chantal. On disait il y en a 6, donc on peut les reciter. Il y a le musée des Beaux-Arts dont on parle ce soir dans le cadre de la nuit étudiante du 11 avril.
C'est ça. Juste à côté, vous avez la galerie David d'Angers, le musée Jean Lursa et de la tapisserie contemporaine, le musée Pincé, le muséum des sciences naturelles, et puis à l'extérieur de la ville, il y a le musée Château de Villevêque.
Alors, est-ce que ces musées-là ont aussi le droit à leur nuit étudiante, leur après-midi étudiante, ou des événements comme ça pour mettre en lien avec la jeunesse, les personnes un peu plus jeunes?
Alors, on fait d'autres événements dans ces musées, mais la nuit étudiante, c'est seulement le musée des Beaux-Arts, parce que c'est le musée le plus grand, en fait, et qu'il est placé en centre-ville, donc c'est quand même très pratique pour l'accès. Mais régulièrement, toute l'année, il y a des événements qui peuvent se passer dans l'hôpital Saint-Jean, au centre du Champ du Monde, ou même dans la galerie David d'Angers.
Et selon toi, quelle est la force de ces musées dans leur proposition? C'est quoi? C'est la diversité? C'est le fait qu'il y a un petit ancrage local aussi, notamment avec la galerie David d'Angers?
La diversité, oui, avec justement le musée David d'Angers, les sculptures 19e au cœur d'un lieu quand même assez exceptionnel, une ruine réhabilitée en musée. C'est un lieu juste magnifique. Là, en ce moment, il y a une lumière absolument sublime. Le musée Jean Lursa, il est dans un bâtiment aussi exceptionnel, un des plus vieils hôpitaux de France. Donc la tenture du Champ du Monde, c'est aussi un ensemble assez majestueux. Et puis l'hôtel de Pincé, qui est un petit bijou en plein centre-ville. Trop souvent, les gens passent devant sans oser entrer, aller voir. Il y a des collections magnifiques, des antiquités grecques, romaines.
En même temps, il a rouvert il y a peu, hein. Il y a 2 ans, c'est ça ?
Il a ouvert en 2020, juste avant le confinement. En
fait. Au bon moment. Hein.
C'est ça. Il est ouvert seulement le week-end et pendant les vacances scolaires.
Est-ce qu'il y a toujours l'exposition sur la séduction qu'il y avait à un moment donné ? Ouais.
Oui, en effet. Elle est toujours présente au rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée.
Et à l'étage des collections permanentes.
Voilà, on a eu l'occasion ici dans la rédaction de Topette d'y jeter un œil. On vous encourage vivement à y aller vous aussi, y jeter un œil. Concernant ton parcours à toi, Lali, ton stage, il s'inscrit donc dans le cadre de ton master, deuxième année. Master, c'est, de toute façon, c'est qu'en deuxième année, hein, il n'y a que 2 ans, je crois.
C'est ça.
Quel est ton projet, toi, derrière tout ça ?
Ben, mon projet, c'est de faire de la gestion de projet, donc dans le milieu des musées surtout, et de l'organisation d'événements, mais aussi de la médiation culturelle, donc en fait vraiment des visites conçues un petit peu sur mesure selon le public auquel on s'adresse, donc les enfants ou les personnes qui n'ont pas spontanément accès à la culture. Ça, ce serait vraiment mon projet.
Et donc, dans le cadre de ton stage, que découvres-tu, qu'apprends-tu ça, là, dans l'organisation de la nuit étudiante, j'imagine que ça permet de toucher concrètement à l'application de ce que tu as pu apprendre en cours auparavant.
Oui, c'est ça. Je fais pas mal de communication pour le projet. Donc, ça me permet de toucher à plein de choses. Et puis, tout ce qui est gestion de projet, en fait, contacter tous les porteurs de projet, caler tous les rendez-vous... Même gérer, j'allais dire, un petit peu de la scénographie d'événements, en fait, tout ce qui est décor, voilà. Enfin, il faut penser à plein de petites choses, on peut courir un peu partout, c'est sympa.
Et puisqu'on est au Musée des Beaux-Arts, justement, Chantal, en termes d'exposition, il y a une salle en bas, je crois, qui sert à ça, aux expositions. Donc, il y avait I've Got the Feeling il y a quelques temps de ça. On en est où ? Quelles sont les actualités à propos ?
Alors là, on est dans la préparation de la prochaine exposition qui s'appellera L'étoffe des Flamands, mode et peinture au XVIIe siècle. Et elle va ouvrir mi-juin, jusqu'aux Journées du patrimoine.
Et cette fois-là, on ne pourra pas goûter, toucher ou sentir les œuvres, on est d'accord ?
Non, mais on pourra expérimenter les vêtements de cette fameuse mode 17e, porter des fraises, des vertugadins et autres vêtements.
On éveillera nos sens avec nos yeux, ce sera notre porte d'entrée.
Est-ce que je peux juste, dans notre actualité très, très, très proche, ce week-end, samedi soir, on fait une soirée-jeu au Musée des Beaux-Arts, ça s'appelle À vous de jouer, et c'est ouvert de 17h à 23h, c'est gratuit, et il y en a pour tout le monde, petit et grand.
Des jeux de quoi ? Le loup-garou, par exemple ? Alors, des choses comme
ça ? Il y aura des jeux de rôle, mais il y aura aussi des jeux de plateau, des jeux qu'on a créés spécifiquement en lien avec nos œuvres, des quiz, voilà. Il y en a pour tout le monde.
Ah bah, décidément, il s'en passe des choses. C'est à se demander si on peut venir au Musée des Beaux-Arts pour simplement déambuler voir les œuvres. Si, quand même. D'ailleurs, les horaires d'ouverture, c'est ouvert tous les jours, quasiment ?
C'est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Et chaque jour, c'est gratuit de 17h à 18h pour tout le monde.
Et bah voilà. Et puisqu'on en est dans les infos pratiques concernant la nuit étudiante du 11 avril, qu'est-ce qui est important de retenir, Lali, selon toi, en termes d'infos pratiques ? Peut-être pour inciter les jeunes comme Solène, Deluco ou Joanne à aller faire un petit tour. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? C'est gratuit, c'est payant, ça se passe.
C'est gratuit, c'est au Musée des Beaux-Arts, place Saint-Éloi. Ça commence à 20h et ça termine à minuit. Et
Les infos sur la page Instagram.
C'est ça, page Instagram, donc musée au pluriel tiré du bas Angers. Et aussi, comme le thème c'est l'Olympe se bouge, vous pouvez venir déguiser le dress code. Du coup, c'est soit en mode sport, soit en mode mythologie. C'est à vous de choisir.
Ou un petit mix des deux.
Pourquoi pas.
Comme sur l'affiche, on peut venir avec la couronne de César dans les cheveux et puis le chasuble de Wenbanyama, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Je regarde Guillaume qui va passer maintenant pour l'Hangar Pop. Justement, on reste un petit peu, alors là, on n'est pas encore dans les beaux-arts, mais on va rester dans les objets un peu, pas dépassés de mode, mais vintage, pop, avec Dans mon grenier et toi, Guillaume, juste le temps du petit jingle. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Pierre Benoît, et quel plaisir de vous retrouver, tellement l'attente fut longue pour cette nouvelle chronique vintage. Bienvenue dans mon grenier. Alors dans mon grenier, il y a des objets que l'on trouve plus ou moins régulièrement, mais s'il y en a bien un dans la région qu'on croise assez régulièrement, même s'il est souvent soigneusement conservé par les familles, eh bien ce sont les boules de fort, patrimoine culturel immatériel de l'Anjou. Dans cette chronique, je vais donc vous faire un petit historique et vous donner les bases de ce sport. Le seul au monde qui se joue en pantoufles. S'il vous plaît, et cela est obligatoire pour ne pas abîmer le parquet. Alors pour l'histoire, ça va être assez rapide, puisqu'en gros, l'origine de ce sport est mal connue. Selon la version la plus répandue, ce seraient des mariniers de Loire qui auraient pris l'habitude de jouer au fond de leur embarcation. Mais cette théorie est jugée peu crédible du fait que les gabarres à l'époque, les grands bateaux de Loire, étaient beaucoup plus courts que les terrains actuels de jeu et étaient parcourus d'embrures avec des mâts plantés au milieu du navire. Une autre croyance, elle, fait remonter le jeu à Louis XV, où des prisonniers espagnols auraient alors eu l'idée de jouer avec des boulets au cours de la construction de la levée de la Loire. Le souci, eh bien, la levée de la Loire a été construite par Henri II Plantagenet à partir de 1170, donc ça ne colle toujours pas. Toujours est-il que la plus ancienne référence connue d'un jeu de boules date de 1660, avec la mention dans la région angevine d'un jeu de paume possédant des jardins, dans l'un desquels un jardin est un jeu de boules couvert d'ardoises et d'un petit logement bastille sous comble. Ce que l'on peut retenir pour son histoire, c'est qu'elle existe depuis des siècles et que son jeu était très localisé puisqu'il se pratiquait essentiellement en Anjou et à l'ouest de l'Indre et Loire. Pour l'anecdote historique, le premier concours public a eu lieu le 15 et 16 juillet 1905 à Asnières-Bois-Colombes, à l'initiative du journal L'Angevin de Paris. Car en effet, il existait une société, la Boulangevine et Tourangelle, située avenue Dianou, qui regroupait les Angevins de la capitale. Par la suite, la compétition la plus prestigieuse, qui eut lieu entre 1907 et 1991, fut le Challenge Cointreau. Tiens donc, un autre du coin. En ce début du XXe siècle, un changement est donc amorcé dans le sens où le jeu de la boule de fort prend une place de plus en plus importante dans l'animation des sociétés, où jouent les sociétaires, et se transforme pour devenir de plus en plus familial. Il faut savoir qu'à l'époque, cette pratique de la boule de fort était quasi exclusivement réservée aux hommes, où ceux-ci, comme on dit, chopinaient bien. Maintenant, en ce qui concerne la boule de fort en elle-même, en fait, l'originalité de cette boule tient dans le fait qu'elle a un côté faible, légèrement évidé, et un côté qui est plus lourd, qu'on appelle le fort. L'écorce des premières boules est faite en bois local, surtout du cormier, mais aussi du frêne et du buis. Et puis c'est un forgeron de Mazé, Monsieur Pinault, qui en 1865 aurait fabriqué la première boule cerclée avec du fer. Elle fut adoptée depuis. Le marché actuel propose également des boules réalisées avec des matières plastiques, mais le bois est toujours préféré par de nombreux joueurs. Et donc, on y arrive. Le but du jeu, s'approcher le plus possible du petit, le cochonnet local. Pour cela, de l'adresse, de la technique et de la patience. Beaucoup de patience, comme un peu un éloge de la lenteur. En effet, il faut placer sa boule au plus près du petit grâce à des charges, des zigzags. En sachant donc que les boules ne sont pas rondes, que leur poids est déséquilibré et qu'elles roulent sur un terrain incurvé. Complexe, donc. La partie se joue généralement en 10 points et dure entre 1 heure et 3 heures, ce qui laisse le temps de causer. Aujourd'hui, il existe un peu plus de 300 sociétés de boules de fort qui sont clairement dans une bonne dynamique. Donc tout simplement, je vous invite à aller pousser la porte de l'une d'entre elles et à vous familiariser avec ce fameux jeu de la boule de fort. Voilà pour cette chronique, en espérant vous en avoir appris un petit peu. Et merci au Hogar Pop pour l'aide à la préparation de cette chronique.
Eh ben, est-ce qu'on est encore dans le thème du sport ou pas? Je pose la question, la boule de fort, est-ce que c'est un sport?
C'est un sport reconnu, et le seul au monde qui se joue en chaussons.
Mais pas encore aux Jeux Olympiques, je ne crois pas. Hein.
Bientôt. On va militer pour.
On va missionner Calix de Nigremont pour porter la revendication auprès du comité olympique. Justement, on passe à Terre de Sport.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Bonsoir Théo.
Bonsoir.
Théo Barrier-Green, coordinateur pour la Dalle Angevine sur l'événement dont on parle ce soir, Terre des Sports, deuxième édition. Et t'es pas venu tout seul, t'es accompagné de Jeanne. Bonsoir Jeanne. Ah pardon, t'entends pas Jeanne.
Bonsoir.
C'est bon, t'entends. Jeanne Moreau, toi t'es étudiante en L3, communication marketing du sport. Et du coup, en partenariat donc avec la Dalle Angevine, vous proposez Terre des Sports, deuxième édition. Et thème de l'année oblige donc avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est quoi le thème d'ailleurs? Je l'ai plus sous les yeux. Théo,
Faites vos jeux.
Faites vos jeux, c'est celui-là. Au programme Un Village, expo photo, murs participatifs, plein de choses en fixe et des rendez-vous collectifs aussi, des tables rondes, des spectacles, des diffusions de courts-métrages. Et il y aura notamment la présence d'Amandine Brossi ou de Matteo Beau et As. J'ai l'impression que c'est la dimension d'Alain Juin qui parle. Mais avant de parler de l'événement, peut-être qu'on va représenter et la d'Alain Juin et la filière dans laquelle tu es, Jeanne. Toi, tu es donc en L3 communication et marketing du sport, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que je suis donc dans une licence donc à l'UCO, information communication, et on a une spécialité qui est marketing et communication du sport, où on apprend et approfondit l'organisation d'événements sportifs, toute la gestion en fait de tout ce qui se passe au niveau communication dans le sport.
Et alors ton petit projet toi derrière, comme à l'ALI, c'est de bosser où, dans quoi concrètement?
Pour l'instant, je n'ai pas forcément de projet fixe. Après, le but c'est voilà, travailler dans le monde de la communication. Petit bonus, c'est dans le sport, puisque c'est ma passion.
Voilà, bon, c'est un petit peu ce que tu fais. Là, tu communiques sur l'événement dont on parle ce soir avec toi aussi, Théo. Faites vos jeux. La Dalle en Juin, pour repréciser, peut-être redonner un petit peu de contexte, l'association qui promeut le sport, les sportifs, les sportives à Angers.
Oui, tout à fait. Association qui a vu le jour en 2016, fondée par 200 anciens joueurs professionnels d'Angesco et qui a pour but, en effet, de promouvoir le sport à Angers. Donc, avec un rôle de média, avec un site internet qui diffuse des actualités sur le sport à Angers, mais aussi des réseaux sociaux, forcément. Un rôle de fédérer le sport à Angers, de connecter les acteurs du sport angevin entre eux. Et un dernier rôle d'accompagner le sport angevin, où chaque année, on a un appel à projet et on finance des projets, que ce soit des projets de performance, des projets sociétaux ou des projets d'aventure.
Et il y a même un petit podcast, je crois, avec Radio G, ça s'appelle Venu d'ailleurs, c'est Valentin qui s'en charge?
Oui, tout à fait. Donc l'association, d'année en année, continue de développer des nouveautés, des nouveaux projets. On a en effet un podcast, Venu d'ailleurs, qui met en avant des personnalités étrangères qui font des choses pour le sport à Angers. Donc ce podcast-là, en collaboration avec Radio G, et du coup aussi son propre événement avec le Festival Terre des Sports,
dont on parle ce soir. Alors justement, avant de parler de cette deuxième édition, c'est déjà la deuxième édition avec Faites vos jeux comme thème pour cette année 2024. L'idée, comment elle est née? Comment c'est venu? C'est la Dalle en Juin qui a plutôt sollicité les étudiants, l'UCO. Comment ça a marché, Théo? T'étais au cœur de tractations, je crois.
Oui, tout à fait. L'association a toujours eu envie d'avoir son propre événement, parce qu'en effet, on suit les événements du sport angevin proposés par les clubs, les districts, les fédérations, etc. Mais on n'avait pas notre propre événement, ou alors autrement, c'était des événements plutôt privés. Et là, du coup, on voulait vraiment créer un moment pour le grand public où ça allait parler de tous les sports, donc vraiment les sports avec un S, et puis le sport, bah, comme on fait durant toute l'année, que ce soit du sport de haut niveau, mais aussi du sport populaire, entre guillemets, du sport pour l'éducation, du sport santé, etc. Et du coup, pour organiser ce festival-là, on était déjà en connexion, on va dire, avec l'UCO, parce que l'UCO a des étudiants, pareil, qui sont passionnés de sport et qui ont besoin d'un terrain de jeu pour s'exercer. Donc, bah voilà, le match s'est fait entre l'association et l'école pour bah, à la fois répondre à un besoin de contenu terrain pour les étudiants et nous, association, de main-d'œuvre et de ressources humaines de qualité.
Le match, tu ne lâches pas le lexique sportif, Théo, décidément. Jeanne, comment tu nous présenterais du coup cette édition de Terre des Sports numéro 2 avec ce thème principal, Faites vos jeux? Quelle ligne éditoriale a-t-elle?
Terre des Sports, donc, c'est un festival déjà qui est 100% gratuit et qui a pour but en fait de promouvoir le sport en général. Et ce thème des jeux, on le retrouve donc avec les jeux olympiques, paralympiques, mais aussi des jeux ludiques ou politiques. On aborde vraiment toutes les facettes du sport et pas seulement la pratique. Donc pour tous ceux qui sont passionnés ou qui ont juste envie de découvrir, tout le monde est le bienvenu.
Lali, petite question, tiens, est-ce que tu avais entendu parler de Terre des Sports, toi, la saison passée sur Angers à l'UCO?
Non.
Non, et toi Solène, alors la Valoise, est-ce que tu connaissais la Dalle en Juin?
Non, désolée.
Non, bon bah voilà, maintenant les présentations sont faites, peut-être qu'il va y avoir des choses. Est-ce que la Dalle en Juin, non, elle va rester sur Angers quand même, Théo?
Oui, bien sûr, nous pour le coup, comme on a un ancrage territorial aussi très fort, c'est notre identité principale.
On va présenter tout à l'heure le programme détaillé, mais juste déjà sur ces deux axes, il y a un point fixe et il y a des rendez-vous collectifs. Ça se passe où tout ça, Jeanne?
Ça se passe donc à l'UCO. Dans le bâtiment Bazin, et donc il va y avoir des temps en amphi et des temps sur le village.
Je suis un mauvais élève, j'ai oublié de préciser une chose importante quand même, les dates. Théo, on les a?
Oui, ça sera le 3 et le 4 avril.
Voilà, du côté de l'amphithéâtre Bazin à Lucco. Et on vous détaille le programme dans quelques instants, notamment avec ces tables rondes, les projections de films, de courts-métrages, les expos dans le village et ce mur participatif, car je n'ai pas saisi de quoi il s'agissait, mais j'imagine que c'est très intéressant. Donc ça, on en parle juste après Ado de Joseph Kamel sur le 100.5 FM.
On était ado, on était peut-être trop bête pour trouver les mots. On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres. Mais t'étais la première. On était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots. On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres. Mais t'étais la première. Je notais dans ma chambre pour toi mes premières rimes, bourrées de sentiments et de répliques de films. C'était pas vraiment très beau ou poétique, mais je les chantais doucement en t'appelant sur ton fixe. On était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots. On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres. Mais t'étais la première. On était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots. On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres. Mais t'étais la première. On n'a pas pris le temps de nous laisser grandir. J'avais peur d'être chiant, t'avais peur des autres filles. Et quand t'as 15 ans, on se dit pour toute la vie, c'est qu'on sait pas vraiment ce que la vie veut dire. J'y repense ce soir et je crois qu'on était ados, on était peut-être trop bêtes pour trouver les mots. On avait que l'amour en tête et j'ai dit des choses que maintenant je regrette, je les dirai pas à d'autres. Mais t'étais la première. On était ados, on était peut-être trop bêtes.
Joseph Kamel et Ado sur le 101.5 FM de Radio G. Tout à l'heure, on va aller chez Mémé dans les orties avec toi, Solène. On va aller au cœur de la cuisine d'Olivier et de Nanou. Mais ça, ce sera juste après notre retour à Lucco dans l'amphithéâtre Hervé Bazin pour parler de Terre des Sports, deuxième édition. Faites vos jeux, thème de l'année 2024. Théo et Jeanne sont avec nous pour en parler ce soir dans Topette. On a présenté les grandes lignes éditoriales de cette édition, le principe, le concept du partenariat entre l'ADA Langevin et du coup la licence à Lucco. Maintenant, si on essaie de détailler un petit peu le programme, Jeanne, je vois que tu as une feuille sous les yeux. Donc dans le village, je parler du mur participatif, par exemple. Est-ce que tu as des informations à propos?
Oui, donc le mur participatif, ça va être en fait pour que tout le monde, tous ceux qui viennent participer à l'événement, partagent leurs ressentis. Donc ça va être des grands panneaux avec des questions où tout le monde va pouvoir écrire en fait ce qu'il en pense.
Alors 3 et 4 avril, le village, mais aussi plein d'événements, notamment ces tables rondes avec les deux sportifs qu'on a cités tout à l'heure, Théo.
Oui, tout à fait. On a donc deux temps forts en format conférence, on va dire, qu'on appelle à la fois causerie ou alors autrement table ronde. Donc la table ronde qui s'intitule « Citoyens olympiens, ils feront les Jeux à leur manière ». C'est-à-dire qu'on aura des invités qui vont participer à Paris 2024, mais à leur manière, avec soit un rôle d'arbitre, un rôle de bénévole, un rôle de coordinateur d'événements. Donc des personnes un petit peu de l'ombre de cette Olympiade-là. Et sur la causerie d'athlète, là, en effet, on aura vraiment le privilège, je dis vraiment le privilège, parce que avoir un sportif paralympique médaillé qui est, voilà, en pleine préparation de Paris 2024, ainsi que Amandine Broussier, donc Matteo Boyas pour le sportif paralympique, et Amandine Broussier, qui sont très très sollicités et qui sont dans leur dernière ligne droite de leur rêve sportif. On les aura avec nous et ils seront là pendant une bonne heure pour partager leur excitation à l'approche de cet événement planétaire en France.
Ça, c'est un bon argument pour participer les 3-4 avril, aller faire son curieux ou sa curieuse du coup du côté de Hervé Bazin, l'amphithéâtre Hervé Bazin. Jeanne, comment s'impliquent les étudiants et étudiantes du coup de ta licence? Comment vous répartissez les tâches dans l'organisation pour Terre des Sports?
Alors, on est répartis donc les 24 élèves en 4 commissions, donc logistique, animation, partenariat et communication. Et on se divise en fait en fonction des missions, donc de l'organisation plutôt pratique, voilà, à l'invitation donc des intervenants jusqu'à la réservation du matériel.
Alors, j'imagine que la plupart des personnes qui sont impliquées dans l'organisation d'événements seront présentes les jours J. Quel public est concerné, par contre, par Terre des Sports, Théo?
Alors, c'est un public... donc, on a une cible, bien évidemment, mais la force, je pense, vraiment, cette année, de cette édition, pour le coup, c'est vraiment... toutes celles et ceux qui aiment le sport, bien évidemment, mais pas que. Parce que, comme on disait, les Jeux, ce sont des éléments qui ont marqué notre histoire, qui ont marqué nos sociétés, avec des fois des angles politiques. On parlait tout à l'heure aussi de l'art aux Jeux Olympiques, etc. Donc, il y a vraiment une richesse culturelle dans cette édition qui est très forte. Et je pense notamment à la Serena, une lecture qui sera jouée par Clément Pascot, un comédien professionnel qui, voilà, pareil, à travers une pièce de théâtre, raconte la vie de Serena Williams, tenniswoman, et ça, c'est le milieu du théâtre à la base, mais qui fait une connexion avec le sport. Donc vraiment, cette année, il y a une grande richesse. En plus, on est à l'UCO, donc un gros territoire aussi, bassin d'étudiants sur place. Ça s'adresse aussi à eux, où ils ont juste quelques escaliers à descendre pour être au cœur du festival.
Le sport devient un élément de la culture, j'ai l'impression. Je ne sais pas, Lali, si tu partages cette impression. À découvrir, en tout cas, le festival Terre des Sports, pareil, il y a une configuration, pas que pour les étudiants, mais en tout cas, il y a cette implication étudiante. Quel regard tu portes dessus?
Je trouve que c'est une super idée. Moi, je suis pas une grande fanade de sport, mais vous m'avez bien donné envie de venir. Je trouve que d'organiser des événements comme ça, ça permet de ramener des personnes qui sont pas forcément de ce milieu-là, et ça donne envie. C'est cool.
Des attentes, des espoirs, peut-être, Jeanne, une fois que tout sera passé, les 3 et 4 avril, je sais pas, en termes de fréquentation, le fait des inquiétudes, peut-être aussi, le stress qui va monter?
Le stress, oui, bien sûr, on ne sait jamais vraiment avant un événement comment ça va se passer, s'il va y avoir des imprévus, et il va falloir qu'on arrive à gérer ça. Après, pour la fréquentation, nous, on veut un maximum de personnes. Le but, c'est vraiment un événement de partage aussi, donc entre les intervenants, mais aussi entre le public lui-même. Donc on espère avoir le plus de personnes possible.
Et toutes les infos pratiques, on les découvre comment, Théo, justement, pour réserver peut-être?
Oui, alors en effet, donc c'est un événement gratuit. Il y a une billetterie qui est en place pour, entre guillemets, sécuriser sa place. C'est limité à 500 personnes par soir. Si vous voulez vous assurer votre présence, vous pouvez prendre votre billet gratuit sur le site Terre des Sports ou les réseaux sociaux Terre des Sports, Facebook, Twitter, X, pardon, Instagram. Après, si vous venez le jour J, bien évidemment, vous serez accepté sous réserve de places disponibles.
On en reparle de toute façon tout à l'heure, les infos pratiques et les infos essentielles à retenir concernant Terre des Sports 2e édition, faites vos jeux, mais également la nuit étudiante avec Lali qui est toujours avec nous en studio. Moi, tout ce sport, je sais pas vous, ça m'a donné un petit peu faim, on va aller faire un petit tour chez Mémé dans les orties avec toi, Solène.
Mémé dans les orties, bonjour.
Olivier vient de prendre une nouvelle réservation aux 2 places de Lafayette à Angers dans son restaurant Mémé dans les orties. Et comment décrire le lieu? Eh bien, posez-vous. Fermez les yeux, sauf si vous êtes en train de conduire, et imaginez retrouver les odeurs de la maison d'antan de vos grands-parents. Les épices, la chaleur des plats encore en train de cuire. Imaginez aussi la décoration, faite de briques et de brocs, de cadres et de bibelots. Mais tiens Olivier, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Parce que ça sent vraiment très bon.
Alors là, j'ai des cakes qui sortent du four avec carottes, cumin, oignons, feta. Très très bien, il y a toujours une proposition végétarienne ici. Et puis je viens de mettre dans le four là-bas, oh là là, ça va être bon. Du poulet avec une sauce curry coco.
Et ça sent vraiment très très bon. Et le premier client de cette journée, c'est Pierre-Yves, qui travaille dans un magasin bio à 2 pas de Mémé dans les orties.
Oui, je viens très très souvent, toutes les semaines pratiquement, parce que je suis voisin, je tiens le magasin Manger Bio, donc c'est un lieu en fait que j'aime beaucoup, de par la personnalité d'Olivier. On est content en fait de venir manger ici, parce qu'effectivement, au travers de ses propositions plats végétariens et puis plats plus classiques, on va dire, on se régale.
Et il a raison. Olivier, c'est un personnage haut en couleur et très agréable. À peine on finit une conversation avec lui que les voisins de travail affluent pour prendre un petit café. Il est 10h30, les premiers clients appellent pour réserver, car Mémé dans les orties est très souvent prisé. D'autant plus lorsque les beaux jours arrivent. Alors, pour être sûr d'avoir une place, le plus simple, c'est de téléphoner à Mémé dans les orties.
Et ben voilà, qui est une bonne adresse, un bon conseil. Merci beaucoup, Solène. Le sport, ça m'a manqué, du coup je vous propose d'y retourner. On part avec Histoire d'un jour, le podcast Mémoire Sport, en partenariat avec Sun Radio.
Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
C'est aujourd'hui le 21 mars, c'est en cette date, en 1960, que le pilote brésilien de Formule 1, Ayrton Senna, voyait le jour à Sao Paulo. Cité comme pour la plupart des suiveurs de la F1, un des plus doués de l'histoire, le triple champion du monde en 1988, 90 et 91 aurait peut-être pu avoir un palmarès davantage étoffé si un mur du circuit d'Imola en Italie n'était pas venu stopper sa carrière et mettre fin à la vie du sacré rival d'Alain Prost le 1er mai 1990. 1994. Le 21 mars est une journée à célébrer des joueurs élus Ballon d'Or de football. Le premier d'entre eux nous a malheureusement fait ses adieux le 21 mars 1990. Le gardien de but soviétique Lev Yashin est le seul portier à avoir décroché la distinction individuelle dans sa carrière. L'homme d'un seul club, celui du Dynamo Moscou en Russie, a reçu le Ballon d'Or en 1963. Celui qui a revêtu à 74 reprises le maillot de la sélection soviétique a remporté avec elle le titre olympique à Melbourne en 1956, ainsi que le tout premier Euro de foot en 1960. Généralement tout de noir vêtu, le surnommé Araignée Noire disputera 3 éditions de la Coupe du Monde. Lui, la Coupe du Monde, il la remportera en tant que capitaine de l'Allemagne en 1990. Lothar Matthäus est né le 21 mars 1961. C'est en cette année, 90, que l'ancien du Borussia Mönchengladbach, du Bayern de Munich et de l'Inter Milan va recevoir le Ballon d'Or. Si en club, il remporte pratiquement tout, à part la Ligue des Champions, avec l'Allemagne, il disputera 5 phases finales du Mondial et en est le recordman de sélection avec 154. Et puis vint un autre phénomène, un autre champion du monde. C'était en 2002. Lui a de l'or dans les pieds. Tous les ballons qu'il touchait devenaient des bijoux pour les yeux. Un sens certain du dribble et du spectacle, le Brésilien Ronaldinho a illuminé les rencontres dès la fin des années 90, au début des années 2010. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, du Grêmio, de l'AC Milan, mais surtout celui du FC Barcelone, va conquérir le cœur de tous les passionnés du ballon rond en 2005, en récoltant le fameux Ballon d'Or, devenant le troisième Brésilien après Rivaldo et Ronaldo à subtiliser l'ultime trophée personnel. Ronny prendra finalement sa retraite sportive en 2016. Pour le football, en effet, le 21 mars vaut littéralement son pesant d'or. Lui rêve de devenir un jour Ballon d'Or. Le Français Antoine Griezmann a failli le remporter, notamment en 2016 et en 2018, où il se classera finalement troisième du palmarès. Le champion du monde 2018 avec la France est né le 21 mars 1991. On lui souhaite un joyeux anniversaire à Antoine et nous on se dit à demain pour de nouvelles histoires d'un jour avec Mémoire Sport.
Mais non, c'est pas demain, puisque ça, c'est quand on écoute le podcast. Ce sera dans 2 semaines pour Mémoire Sport, le podcast Mémoire d'un jour, Mémoire Sport, enfin, Sun Radio, voilà. C'est fin d'émission, fin de semaine aussi pour Topette. Topette qui ne reviendra pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Je te regarde, Guillaume, tu seras avec nous dans 2 semaines, rassure-nous.
Bien sûr, je serai là, avec grand plaisir.
Est-ce que t'as déjà des idées de quoi on va parler dans 2 semaines avec toi?
Ouais, on va repartir sur du plus rigolo, plus décalé, toujours vintage, mais ça risque de remémorer de sacrés souvenirs et ce sera bien drôle.
En attendant, le Hangar Pop ouvert tous les
mardis au samedi. On vous accueille avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Toutes les infos sur Insta et Facebook.
De Impasse Saint-Charles.
On est d'accord.
Voilà, du côté du Mine à Angers.
On est d'accord, quartier Saint-Serge, place Ney.
Ça, on connaît. Quémonge, on connaît pas, mais ça, on connaît. Ça va. On reprend dans l'ordre chronologique. Lali, la nuit étudiante. Qu'est-ce qu'il faut retenir? L'essence même, l'âme de cet événement.
C'est une soirée pour les étudiants avec plein d'animations artistiques, du théâtre, des concerts, du DJ set, des Olympiades artistiques. C'est gratuit. C'est au Musée des Beaux-Arts, place Saint-Éloi, de 20h à minuit.
Ben voilà, ça y est, t'es une vraie animatrice radio désormais. On te souhaite bon courage pour la suite de ton stage, du coup, et puis surtout pour le 11 avril, hein, comme tu dis. Après, ça va. Tu prends une semaine de vacances, peut-être, non, derrière?
Sûrement, ouais.
Ouais.
Juste après, peut-être.
Pour décuver intellectuellement, en tout cas. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans Topette. Terre des Sports, Théo, Jeanne, pareil, l'âme de l'événement. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre et surtout l'importance que c'est d'avoir les deux sportifs dont tu parlais tout à l'heure, Théo?
Oui, mercredi 3 avril et jeudi 4 avril, de l'après-midi ou même le soir, si, et surtout le soir, avec en effet ces très belles conférences à venir. Si vous voulez manger et boire un coup avec des gens passionnés par le sport, écouter du sport, même pratiquer du sport, et ben c'est avec nous qu'il faut venir au festival Terre des Sports.
Jeanne, c'est gratuit, on réserve. Hervé Bazin,
on réserve en ligne sur notre site ou les réseaux sociaux et c'est quand même mieux de prévoir sa place.
Bon, en tout cas, pareil, on vous souhaite plein de bon courage aussi pour la suite de ton parcours, Jeanne. Jeanne Moreau, voilà, c'est original, mais ça dépend des générations, on a bien compris ça en tout cas. Solène, merci, un petit mot quand même pour Solène qui fait son dernier jour de stage ici. Elle a décidé de revenir en service civique, c'est ça, non?
Ouais, on va en reparler après peut-être.
On va en parler. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, très beau reportage à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet, puisque dès que Mathéo sera de retour, il va découper tout ça et puis mettre ça en ligne. Donc, on pourra retourner chez Mémé dans les orties à volonté, à l'infini. Voilà, rien de plus à dire. Moi, je suis en vacances ce soir, donc ça fait plaisir. On se retrouve lundi en 8. Ça fera le numéro, je sais plus combien. Mais on sera là à partir de 18h10 dans, non pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Et un petit son simplement pour dire au revoir à Solène. Et on se quitte là-dessus. Prenez soin de vous, bye bye et topette.